Bonjour, je suis Pascal Solière, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode 41 de ITcast du 3 mars 2017. Un épisode spécial DevOps et conteneurs aujourd'hui, avec trois spécialistes qui vont nous faire partager leur expérience concrète et leurs conseils sur ce sujet brûlant. Tout d'abord, Jean-François Béranguet, qui nous parle depuis la région d'Aix-Marseille et qui nous fait part de son expérience d'une transition DevOps réussie dans son entreprise. Fabien Dibault est là aussi, depuis Rennes, en Bretagne, et nous présente aujourd'hui ses retours sur la mise en œuvre de conteneurs dans Azure. Et enfin, un nouveau venu dans ce podcast à qui on souhaite la bienvenue, Florent Apointer, qui nous appelle depuis la Belgique pour nous faire part aujourd'hui de son expérience sur les conteneurs Windows. Donc, bienvenue à nos trois invités et bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ITcast. Je suis seul animateur aujourd'hui puisque Maxime n'a pas pu venir aujourd'hui. Il a des petites contraintes personnelles. Donc on pense à lui et on lui dit à bientôt. J'ai trois invités en face de moi virtuellement par Skype. Donc le premier, c'est Jean-François Béranguet, directeur des services de Scala Group Quantim, cofondateur de la célèbre communauté maintenant CMD. CMD Cloud Mobility Data Center, qui s'est illustré notamment dans la co-organisation, on peut dire ça, du récent événement MS Cloud Summit, et bientôt également dans un événement le 30 mars, co-animé avec AWS AX. Donc bonjour Jean-François.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien, ça va bien.
Toujours en région marseillaise ?
Ouais, un petit peu plus au nord de Marseille, mais oui, effectivement, toujours dans le sud-est.
Deuxième invité, Fabien Dibault. Salut Fabien.
Salut Pascal, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, merci.
Toujours Microsoft Azure Architect chez Orange Business Service.
Tout à fait, c'est ça.
C'est en fait assez récent, hein, je dis toujours, mais en fait, ça fait pas très longtemps.
Ah, ça fait 3 semaines maintenant, je fais partie des murs là-bas presque.
D'accord. Et donc, tu fais beaucoup d'Azure et de containers chez nos amis de Orange Business Service.
Ouais, tout à fait. On essaie d'accompagner nos clients là-dessus. Ouais.
Troisième invité, Florent Apointer. Salut Florent.
Bonjour à tous.
Tu es Technical Lead Cloud chez Econocom.
Tout à fait, comme Fabien depuis maintenant 3 semaines que j'ai commencé.
3 semaines, d'accord, c'est tout récent aussi. D'accord, je ne savais pas.
Aussi.
Et tu travailles donc en Belgique, outre Quiévrain.
Exactement, avec les amis flamands et francophones.
D'accord.
Et tu parles flamand ?
Yeah. C'est le seul mot que je vais dire.
Ok, notre sujet aujourd'hui, à part la bière flamande, ça va être...
Et wallonne.
Et bretonne, merci.
Bah, et marseillaise aussi, tant qu'on y est.
Il y a la c'est comment la cagole ?
La cagole.
C'est une blague.
Il y a une bière qui s'appelle la cagole.
Oui, tout à fait.
Il y a des bières qui s'appellent la cagole. Ouais. Je vous invite à venir la dégoûter sur le vieux port.
Elle n'est pas trop costaud, ça va ?
Non, ça va, c'est bon.
C'est noté. Je le note pour le 30 mars. Le 29 ce soir, plutôt. Donc, notre sujet aujourd'hui, ça va être les containers et l'écosystème qu'il y a autour. Donc, Docker, Azure, Windows, etc. Et on va commencer avec toi, Jean-François. Tu voulais nous parler de votre expérience concrète autour d'une démarche DevOps et comment vous utilisez au quotidien donc, ces technologies-là.
Oui, puisque donc clairement aujourd'hui, moi j'ai en charge donc l'activité service pour Scala. Donc dans mes équipes, j'ai des développeurs et puis j'ai des IT pros aussi qui eux sont en charge d'opérer après tout ce que font les développeurs. Donc ça fait des années que je travaille avec ces équipes-là et puis on a souvent tendance de dire que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais là je pourrais dire que du coup entre les développeurs et les opérations, c'est pas deux planètes qui a d'écart, mais c'est carrément plusieurs années-lumière, puisque voilà, depuis des années on a pu constater que c'est quand même deux mondes qui ont beaucoup de mal à communiquer, à se comprendre. D'un côté il y en a qui parlent agile, de l'autre côté il y en a qui parlent utile. Alors même si ça se finit pareil, c'est pas du tout les mêmes concepts. Il y en a qui vont parler de intégration continue, de déploiement continu, d'autres qui vont parler de gestion des changements, de frozen zone ou ce genre de choses-là. Et puis finalement, les équipes qui se rejettent après en permanence les raisons des dysfonctionnements l'une sur l'autre. Donc c'est vrai que bien souvent les opérations ont tendance à dire mais de toute façon les développeurs ils ne testent jamais, ils nous livrent ça et puis ça ne marche jamais et après c'est à nous d'essayer de faire en sorte que ça tourne. Les développeurs ils disent ouais mais nous on comprend pas pourquoi pour monter un environnement de développement, pour avoir un nouveau poste de travail il nous faut 3 jours. Voilà, donc c'est une guerre permanente qui date ben, je pense depuis la nuit des temps à peu près. Et effectivement, on s'est penché là depuis maintenant pas mal de mois sur ce qu'on appelle le DevOps. Alors, le DevOps, c'est un peu un terme à la mode, mais en définitive, ça fait très 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 longtemps que ça existe. Avant, on appelait ça l'intégration. Il y avait des directions d'intégration, même dans les grandes entreprises, hein, qui mixaient tout ça. Et le principe, du coup, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des développeurs et des opérations. Donc déjà créer une équipe commune et puis de travailler sur un cycle qui fait que finalement tout le monde va pouvoir travailler ensemble sur ce cycle là. Alors bien souvent DevOps c'est représenté par un cycle un peu infini, un 8 qui est couché avec Dev d'un côté, Ops de l'autre, mais tout le monde qui va travailler, les développeurs vont eux créer, ils vont vérifier, ils vont faire les packages et ensuite mettre à disposition des opérations qui eux vont faire toute la partie release, configuration et monitoring. Mais ça, c'est dans un cycle continu. Donc, ce qui fait que, du coup, on va pouvoir automatiser tout ça. Donc, ça, c'est une démarche qu'on a mis, en place depuis maintenant quelques mois, qui commence réellement à porter ses fruits. On commence à trouver, pas mal de gains là-dessus. Côté environnement de développement, du coup, on a automatisé tout un tas de choses, ce qui fait que maintenant, les développeurs, lorsqu'on démarre un nouveau projet, on est capable de leur mettre à disposition un environnement en quelques minutes. Et le gros intérêt aussi que l'on a, c'est que l'environnement qui est mis à disposition, il est standardisé. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, on s'appuie entre autres sur les solutions de type container, basées sur des images. Et ces images étant créées, validées, les opérations participent à la construction de ces images aussi. Mais du coup, les développeurs, ils ont un environnement qui est figé. C'est-à-dire que typiquement, ils vont pas pouvoir s'installer leur propre version d'Apache ou de MySQL ou de PHP. On va vraiment travailler sur des standards et ça sera toujours le même standard. Donc déjà, on a gagné énormément dans ce type de configuration et type d'environnement. Et puis après aussi dans le transfert d'environnement. C'est-à-dire qu'on va partir du dev pour transférer en recette, pour ensuite transférer en intégration, voire en pré-prod, ainsi de suite. La bascule d'environnement se fait de manière beaucoup, beaucoup plus facile. Puisque après, c'est juste de la duplication d'environnement, on repart sur le même principe. Donc on est sûr de toujours travailler le développeur, l'environnement qu'il va utiliser pour développer, normalement il va être strictement conforme à l'environnement qui ensuite va être mis en production. Donc ça va faciliter aussi grandement toute la partie test. Côté opération, du coup, finalement, on va se retrouver avec des packages qui sont mis à disposition dans un repository. Et après, ces packages-là, ça va être facile de les prendre, de les mettre en production, de faire monter en puissance en fonction de la demande, puisque entre autres, on s'appuie sur des services de type Azure aussi. Et toute la partie opération, monitoring et gestion de la configuration va être facilitée par ça. Voilà. Donc ça, c'est globalement le pourquoi et tout l'intérêt qu'on a eu de passer à ce type d'environnement. Alors ça nécessite quand même de repenser pas mal de choses. Les outils, c'est bien, mais il y a quand même toute l'organisation. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu créer une équipe pour ça, qui soit adaptée et qui change complètement sa façon de voir et voire même de concevoir les applications. Puisque typiquement, pour une de nos applications métiers internes de gestion de notre production, on est parti aussi sur une architecture de type microservice, qui nous permet du coup d'isoler des blocs et de responsabiliser des équipes uniquement sur la gestion d'un bloc, plutôt que d'avoir une architecture classique, monolithique, applicative, où en définitive, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on doit mettre à jour, on doit toucher toute la chaîne applicative. Là, le fait de pouvoir passer en microservice, du coup, ça nous permet de toucher juste le bout de service qui nous va bien. S'il y a besoin de le mettre à jour, on touche que celui-là, c'est complètement étanche. S'il y a besoin de renforcer ensuite de la puissance parce qu'on a besoin voilà, de plus de performance, d'augmenter le nombre de connexions, on va travailler uniquement sur le microservice en question. Et ça, typiquement, c'est quelque chose du coup qui a été techniquement faisable aussi parce qu'on est passé avec le mode container. Et donc, on a commencé maintenant à déployer et à travailler sur des environnements basés sur des containers, donc avec des images qu'on construit. Alors, il y a des repositories officiels, on va dire, dans lesquels on peut aller chercher des images toutes faites. Nous, on a pris le parti de recréer nos propres images à la main, comme ça on maîtrise complètement l'environnement. Après, on a notre repository dans lequel on stocke ça, et ce qui nous permet après facilement voilà, de fournir ça sur les développeurs. Donc, nos développeurs utilisent aujourd'hui, c'est des postes Windows 10 avec un Docker for Windows. Ça nous permet donc de travailler sur ces environnements-là. Et après, derrière, bon, la partie, on va dire, distribution et mise en production, on va indépendamment utiliser soit des plateformes Docker qu'on va avoir dans nos data centers, soit des plateformes qui vont être sur Azure. D'accord. Voilà globalement le pourquoi. Et on a vraiment énormément gagné en temps. Déjà en délai, hein, parce que les délais de mise en service de plateforme, voilà, on est passé de quelques jours à quelques minutes, donc ce qui est quand même grandement appréciable.
Ouais, oui.
Et puis surtout la partie fiabilité, puisqu'on maîtrise complètement l'environnement du développeur. Voilà. Et le développeur, quand on le met sur un projet, alors ça peut être un projet de e-commerce ou un projet autre, mais voilà, il prend son environnement et il est déployé, il l'utilise et on sait qu'ils utilisent tous le même. Et qui sera surtout conforme à ce qui sera attendu après derrière en production.
Quand tu parles d'une architecture d'application maintenant qui est en microservice, est-ce que vous êtes parti sur une application existante que vous avez réarchitecturée ou une nouvelle application?
Oui, alors on a pris une application maison et qui était alors effectivement qui était facilement réarchitecturable.
D'accord.
C'est-à-dire que c'était, voilà, elle était déjà prête et bien prédisposée pour ce type d'organisation. Ça, après, effectivement, mes collègues experts plus tard pourront peut-être préciser sur le sujet, mais effectivement, c'est voilà, il faut quand même que l'application soit éligible à ce type d'architecture. Donc voilà, nous, celle qu'on a pris, c'est la première qu'on a mis comme ça. On a quand même pris celle qui était la plus facilement faisable. Oui.
Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire aussi, c'est le côté humain de la chose. Comment ça s'est passé au niveau du changement de culture? Parce qu'il y a quand même un aspect formation qui a dû être important, de transition, etc.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Hein. C'est effectivement, il a fallu déjà se dire... Bon, de toute façon, on avait un constat qui était de dire, bon, écoutez, les gars, on arrête, quoi. On ne peut plus continuer comme ça à perdre du temps, à perdre en efficacité, à perdre en fiabilité. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Voilà. Donc, déjà, ça, c'était le premier constat. Cette solution-là, effectivement, elle est vite arrivée sur la table. Et puis, avec tous les avantages qu'on pouvait déjà imaginer de ce qu'on pourrait en tirer. Après, c'est vrai que ça change un peu les mentalités, oui. Ça change les mentalités, autant côté dev que côté opération.
Et l'effort de formation a été important?
Alors oui, l'effort en interne, ça nous a pris quand même pas mal de temps pour acquérir la technique qui n'est pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les environnements, c'est nous qui les avons montés, c'est nous qui avons créé nos propres images.
Ouais.
Et puis, quand on a tout dans les conteneurs, ensuite, il faut être sûr de que les conteneurs arrivent à communiquer entre eux, les services arrivent à communiquer entre eux, ainsi de suite. Donc, ouais, on a essuyé pas mal de plâtre sur le sujet. Voilà, mais là, ça y est, on a des projets qui sont lancés sur ce mode-là. Et quand on voit tous les gains que l'on en a, on se dit, c'est bon, quoi, on va y aller, quoi. On commence déjà à rentabiliser le temps que l'on a passé là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, en termes d'organisation, on a une équipe qui s'occupe de ça, qui est chargée de construire tous ces environnements-là, de les mettre à disposition, de les configurer et d'expliquer ensuite aux développeurs et aux opérations comment on s'en sert. Donc effectivement, la partie outils, elle est là, et bon, ça va être la suite de la discussion, mais il y a quand même il y a une organisation aussi. Une organisation à mettre en place pour que ça fonctionne. Parce que du coup c'est des nouveaux processus. Oui.
C'est des conteneurs qui tournent sur Linux ou sur Windows?
On a les deux.
D'accord.
On a les deux. Voilà, parce que on déploie pas mal sur des environnements Linux aussi. Et du coup, ça nous a facilité aussi cette partie-là, parce que jusqu'à présent, les environnements de dev pour les devs, quoi, c'était assez compliqué de pouvoir soit développer sous Linux, soit développer sous Windows. Donc, il fallait développer dans une sur une plateforme et ensuite essayer de l'exporter ou autre. Et là, du coup, avec les conteneurs, comme on peut utiliser l'un ou l'autre indépendamment, hein, puisqu'en fonction du Docker Engine qu'on va utiliser, on va pouvoir autant utiliser des conteneurs Linux que des conteneurs Windows. Ça nous a pas mal simplifié la vie aussi.
Ok.
C'est très récent que Docker for Windows permet de switcher simplement entre les conteneurs Windows et les conteneurs Linux.
Oui, c'est assez récent. Oui.
Je crois que c'est avec la 1.13, hein, je crois.
Ça fait partie de tout.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'après, jusqu'à présent, on travaillait plutôt avec des VM. La petite différence, hein, en gros, entre les conteneurs et les VM, sans rentrer trop dans le détail. Hein. C'est vrai que la VM va s'appuyer sur, on va dire, va avoir l'impression d'avoir son propre matériel. Alors que le conteneur, ça va être une couche un petit peu au-dessus, hein, qui est le conteneur, en gros, va avoir l'impression d'avoir son propre OS. Alors qu'après, en fonction des configurations, en définitive, ça va être un OS qui va être partagé entre les différents conteneurs. Mm. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir moins d'empreintes. C'est-à-dire que globalement, un conteneur est quand même plus léger qu'une VM, parce que ça embarque moins de choses.
Mm. Jeff, moi j'ai une petite question par rapport à ça. C'est plus quoi, IIS, vous faites tourner des bases de données sur... on a vu qu'il y avait maintenant SQL Server qui était disponible sur les conteneurs Windows. Ouais. Donc, vous utilisez quel techno? C'est du .NET, c'est quoi?
Alors aujourd'hui, on est très très PHP encore. C'est la plupart des projets que l'on a effectivement sur des environnements de type PHP avec des bases PostgreSQL, des bases MySQL, des bases de ce type-là.
D'accord. Donc
on n'a pas encore testé. Alors ça fait partie parce qu'on est aussi en expérimentation sur d'autres sujets. Là, effectivement, on va commencer à regarder les parties applications qui s'appuient sur du SQL Server et autres. Alors, faut savoir que nous, effectivement, dans ces environnements-là, puisqu'après, on va utiliser des systèmes d'intégration continue. Alors, entre autres, nous, on s'appuie sur Jenkins, qui lui prend en charge tout ça, prend en charge tous les pipes et autres, et ça permet d'automatiser. Alors après, je sais effectivement chez Microsoft, les plateformes de type Visual Studio permettent de faire ça. Voilà, nous aujourd'hui, on est parti plutôt sur ce type de config.
Ok, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais ok.
Oui. Mais de toute façon, après, quand on regarde un petit peu les composants qu'il faut, hein, effectivement, il faut cette partie intégration continue, déploiement continu. À un moment donné, il faut un repository. Et puis après, il faut une solution. Il faut une solution qui permet. Les conteneurs trouvent du coup toute leur place dans ce type d'architecture.
Et alors, dernière question, parce qu'il va faire un petit peu la transition peut-être avec le propos de Fabien après, mais quand vous mettez en prod, puisque j'ai cru comprendre que vous mettiez vraiment en prod pour des clients.
Alors, pour l'instant, pas pour des clients. Pour l'instant, on est sur des environnements de... Là, aujourd'hui, pour nos clients, on est sur les environnements de dev recette intégration. Et on a commencé à mettre en prod une de nos applications, celle dont je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Là, aujourd'hui, on en est à tester les performances, voilà, avant de vraiment ouvrir les vannes. Donc, on a mis une deuxième plateforme qui est sur ce principe-là. Ça, c'est une question que l'on a, et puis d'ailleurs que je vais en profiter pour poser à mes collègues derrière, effectivement, voir la notion de performance par rapport à des architectures classiques. Si vous avez aussi de votre côté des retours d'expérience, ça, moi je suis preneur.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore choisi un orchestrateur de containers?
Non, on n'est pas encore. On va regarder après pour moi de partir sur du. Des COS ou sur du Kubernetes ou voire du Swarm, mais on ne sait pas encore lequel. Pour l'instant, on est sur plateforme simple, on regarde, et on est en train de tester déjà si en termes de perf ça peut répondre correctement. Quoi.
Donc, bonne transition, Fabien.
Impeccable, ouais, merci Jeff.
You're welcome.
Dans Azure, qu'est-ce qu'on peut faire dans Azure?
Alors, dans Azure, on peut faire pas mal de choses. Hein. Je crois qu'on peut quasiment tout faire maintenant. Moi, j'ai la chance, ou la malchance, je sais pas, d'être le seul ops dans une équipe de dev.
Ça, c'est bien ça.
Ça demande de faire un peu d'éducation quand même. Quoi. Mais des deux côtés, c'est pas que les devs qui font n'importe quoi, mais non, c'est cool parce que du coup, on a des projets qui arrivent là sur lesquels on travaille, qui sont intéressants. Ça rejoint tout à fait ce que tu dis, Jeff, c'est-à-dire qu'on a des applications un peu monolithiques, un peu développées de manière empirique, quoi. Et du coup, mon boulot à moi en ce moment là, c'est de proposer des alternatives à ces applications-là, de les décortiquer, d'aider les développeurs à les décortiquer, de proposer des solutions d'hébergement de ces conteneurs-là. Et Azure apporte en fait toute sa puissance et son environnement multi-techno là-dedans, quoi. C'est-à-dire que nous, on développe beaucoup sur Windows, hein. On fait du TFS pour l'intégration continue. Pour l'instant, on n'est pas sur du VSTS, mais le fait d'être dans TFS, du coup, nous permet d'aller taper directement Azure sur notre subscription ou celle de nos clients. Et donc voilà, on a choisi Azure. Et plus loin que ça, en fait, on avait le choix après, donc entre, tu le disais, Swarm, DCOS ou Kubernetes. Et pour l'instant, on s'oriente vraiment, nous, vers Kubernetes.
D'accord. Et le choix, c'est quoi ?
Alors pourquoi Kubernetes ? Parce que en fait, ça propose une scalabilité automatique beaucoup plus simple dans l'intégration et dans l'utilisation. C'est-à-dire que on définit des seuils de RAM et de CPU pour nos conteneurs. Si le conteneur dépasse cette consommation-là, on va scaler automatiquement. Il va démarrer des nouveaux conteneurs. Et si on atteint des niveaux de criticité. Sur les nœuds qui hébergent le cluster Kubernetes, Azure va clairement démarrer d'autres nœuds en fait Kubernetes. Il va étendre la taille du cluster de manière automatique. Et c'est vrai aussi dans l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Kubernetes va baisser en charge sur ce service-là, il va de lui-même aller déprovisionner des nœuds et éteindre des conteneurs pour revenir à un état de charge, on va dire le moins élevé possible en fait, quoi. On arrive un peu sur ce qu'on fait en PaaS sur les web apps Azure, par exemple, quoi. C'est vraiment quelque chose de scale up, scale down de manière automatique et très simple, en fait. Sans avoir à scripter pendant 3 semaines des runbooks avec des triggers dans tous les sens, tout est géré au sein même de l'application Kubernetes. Et ça, c'est vraiment pas mal, quoi.
Et c'est Kubernetes mis en œuvre dans ACS ou...
Dans ACS, ouais, tout dans à ACS. Fait, ouais. Donc, en plus, ça a le bon côté de se déployer hyper facilement avec ACS Engine qui est passé open source. Là, donc voilà, c'est d'autant plus simple à utiliser que ça se déploie dans des environnements de dev, de calife et d'intégration quasiment les yeux fermés. Hein. En fait, on a un template type ARM. C'est juste un fichier JSON qu'on fait manger à ACS Engine et qui va aller lui provisionner un environnement Kubernetes dans Azure. Complètement intégré avec les load balancers qui vont bien, etc., etc., quoi. C'est vraiment une intégration du feu de Dieu. J'ai cru comprendre qu'il y avait un mec de Google qui avait été embauché chez ACS pour bosser dessus. Bah, il a fait du bon travail, quoi.
ACS, peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est Azure Container Services.
Ouais, tout à fait.
Sur la plateforme Azure. Et après, on a ACR pour la partie Azure Container Registry. Donc, c'est juste les termes.
C'est vrai que je vais pas expliquer, ouais. Je suis rentré peut-être un peu vite dans le détail.
Non, je voulais juste demander est-ce que c'est possible de préciser le fonctionnement du ACS Engine qu'on a mis en open source, en fait, pour
se rendre compte de ce que ça fait. En fait, c'est faudra qu'on mette le lien sur le post de l'Etikast. Hein.
Oui, c'est tout ça, c'est sur GitHub.
C'est un composant open source en Go. Qu'on va aller builder sur notre poste de travail ou sur nos serveurs de build TFS ou Jenkins ou que sais-je, qui va nous permettre en fait de générer des environnements Kubernetes qui sont des fichiers JSON en fait, en ayant uniquement au préalable créé un app service dans l'Azure Active Directory pour avoir un compte et un password en fait qui va accéder en fait au déploiement de l'application. C'est complètement open source, c'est dans GitHub. Il y a tous les liens qui vont bien pour aller créer soit du cluster Docker Swarm, soit du cluster DCOS, donc soit du Kubernetes. Attention, sur Swarm, on n'est pas dans les dernières versions. Vous n'allez pas avoir le Swarm mode. Qui est quand même la version la plus sexy
pas encore.
Du cluster Swarm. Vous êtes en 1.11, il me semble, hein, sur, ou en 1.12, mais dans l'ancienne version.
En 1.12, mais pas en mode moderne, disons.
Ouais, c'est ça. Du coup, ça, honnêtement, pas trop d'intérêt à partir sur un cluster Swarm dans Azure, en tout cas dans un cluster ACS, quoi. Et des COS que tout le monde connaît aussi, ou que si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller le voir.
Donc le Engine, il génère un template ARM personnalisé, en fait.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et ensuite, on va le déployer sur nos environnements, c'est ça ?
Ouais, tout à fait, ça t'évite de passer par l'interface, et c'est plus rapide.
Ok. C'est récent, hein, le fait que d'avoir Kubernetes en General Available sur ACS, ça date de cette semaine, je crois. Ou de la semaine dernière.
Ouais, cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Ouais. Mais du coup, on était contents. Ça nous facilite la vie.
On est en plein d'actes dans l'actualité. Également, en même temps, on vient d'annoncer cette semaine la V2. Enfin, c'était hier même. La V2 de Azure CLI.
Oui, c'est hier, ouais.
La version Python, donc, de la ligne de commande multiplateforme pour Azure.
Et aujourd'hui, il y a la TP3 d'Azure Stack qui est sortie.
En plus, oui, ça ne s'arrête pas, quoi.
Il y a quelques heures, il y a 2-3 heures.
Ouais,
ouais.
Ça va nous donner du boulot, ça, encore. On n'est pas sortis.
Oui, parce qu'il va falloir qu'on en parle avec Stan et tout.
Ça va être un grand moment à Aix-en-Provence. Venez tous le 30 mars.
Ouais. Il y a Jeff qui a prévu de faire un striptease au restaurant le 29 au soir.
La veille au soir.
On ne connaît pas, il faut qu'on se lève tôt, nous.
juste une petite précision sur Kubernetes. Sur Azure, en preview, on peut aller instancier aussi des nœuds Windows. On peut aller piloter des clusters de conteneurs Windows. Ah. Ça, c'est pas mal aussi, quoi. Et ça marche plutôt pas mal, faut dire. Ça marche mieux que dans Docker Swarm, par exemple.
Est-ce que ça veut dire que dans un cluster Kubernetes Windows, tous les nœuds sont Windows ? Ou est-ce que c'est mixte ?
Ça veut dire que tu peux faire tourner des nœuds Windows et Linux.
Dans le même cluster ?
Ouais.
Ah, ça, c'est super, ça.
Magnifique.
Ah, ça, c'est intéressant.
Magnifique. Donc, on peut avoir des applications mixtes, par exemple, avec un, je sais pas moi, un... je sais pas.
Un SQL Server voilà. Avec un Apache, quoi.
Ouais,
Apache sur du Linux, un SQL Server sur un conteneur Windows.
Par exemple.
Une application .NET, hein.
Nous, on y voit des intérêts, ouais, pour tout ce qui est site web .NET ou .NET Core, qui est difficilement portable certaines fois avec certaines API métiers ou des choses comme ça sur des conteneurs en Linux, plus que pour de la base de données SQL Server. Sincèrement, entre moi et vous, j'ai pas encore assez confiance dans des conteneurs pour mettre des bases de données en conteneur, quoi. Que ce soit du MySQL, du Postgre, du SQL Server ou je ne sais quoi. Disons qu'un conteneur, ça doit pouvoir s'arrêter, se jeter, se redémarrer sans perte de données. On n'est pas... ça va être compliqué avec une base de données, quelle qu'elle soit. Mais hormis des bases NoSQL. Voilà, hormis des bases NoSQL.
Bah après, si tu montes des volumes, si tu stockes pas tout dans le conteneur, mais que tu montes un volume à part, je sais qu'avec, par exemple, un conteneur SQL Server, t'as un paramètre qui te permet de monter, on va dire, un volume et de stocker ça dans un disque D, par exemple.
Ouais,
et donc,
ouais,
tu montes ce disque D sur ton conteneur et du coup, tu backups ce disque D. Et puis, pour moi, t'as pas de problème, quoi.
Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que sur le principe, c'est clair, c'est une bonne idée. Le seul problème, c'est que si ton conteneur, il pète alors que t'as une écriture en même temps sur ton fichier SQL Server, tu vas galérer à remonter, en fait, à redémarrer un autre conteneur et qu'il accède aux données, en fait, comme son petit frère, quoi.
D'accord. Ouais,
L'intégrité des données, c'est quand même la principale, enfin, c'est la chose la plus importante dans une base de données plutôt. Et du coup, mettre ça dans un conteneur, c'est quand même se mettre potentiellement dans la merde, quoi.
Ouais.
Donc, d'après toi, on est encore au même point vis-à-vis des bases de données qu'on conseille de ne pas mettre dans des conteneurs. On peut mettre tout sauf,
ouais,
sauf les bases.
Pour moi, en fait, tout ce qui n'est pas scalable à l'horizontale de manière simple, et donc pas des bases de données, ça ne doit pas être dans un conteneur.
Ok, bah c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, depuis longtemps. Ouais,
ouais, ouais. Pour l'instant, ça ne change pas. Hein. Enfin, nous, en tout cas, sur les infras que moi je crée, ils ne sont pas dans des conteneurs, quoi, clairement. Je ne mets pas les bases de données dans des conteneurs.
Ça me fait penser à une chose que Docker a racheté récemment, une boîte française, pour faire du stockage réparti. Dont j'oublie le nom, là, le nom m'échappe, mais Ça ne vous dit rien?
Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est une bonne idée qu'ils intègrent ça dans leur outil Docker. Mm. Moi, j'utilisais GlusterFS avant, qui est pas mal, mais qui marche pas sur Windows. C'est dommage.
Ouais, j'ai oublié le nom de ce truc-là, mais.
Je suis en train de chercher en même temps. Ouais.
Donc Florent, tu as une expérience équivalente sur
Infinite.
Infinite, exactement.
Moi, les plus expériences, moi, je vais plus parler de tout ce qui est Windows Container. Donc, il faut savoir qu'actuellement, les expériences que j'ai, beaucoup de clients veulent tester. Donc, pour l'instant, on va dire sur la partie Windows, c'est du POC. Beaucoup de POC. On va dire que les gens ne sont pas prêts à abandonner, par exemple, leur VM avec IIS installé dessus. C'est plus du test donc avec la base de données, parce que c'est pour ça que j'ai relancé un peu Fabien dessus. Il teste quand même les bases de données. Il teste la partie .NET, la partie IIS, etc. Et les retours sont plutôt bons, mais en Belgique, de ce que je vois, ils sont quand même pour l'instant pas prêts à partir en production avec ça. Donc il y a beaucoup de clients qui disent comment on va faire pour manager ça, puisque les équipes ne sont pas forcément formées pour manager les containers, alors qu'ils sont peut-être habitués à utiliser SCVMM ou vCenter. Donc il y a cette partie-là pour la partie ops, on va dire. La partie dev, eux, on va dire qu'ils utilisaient ça, on va dire, avec Docker sur Linux. Donc pour eux, ça ne change pas forcément grand-chose. Et ce que je vois de plus en plus, c'est l'intégration avec VSTS, donc pour le CI et CD, donc c'est Continuous Integration et Continuous Development, donc combiné avec du GitHub derrière. Et donc là, on peut déployer, enfin, pour un développeur, c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Il modifie son code, il sauvegarde, il push sur GitHub, et puis après, derrière, il y a toute la partie automatisation qui va pousser ça sur des containers. Donc voilà, pour l'instant, on est plus sur, en tout cas en Belgique, sur la partie POC pour tout ce qui est Windows Container. Il n'y a pas vraiment de. J'ai vu personne pour l'instant rentrer en production avec cette partie-là.
Et du coup, Florent, par rapport à la question que je posais tout à l'heure là, sur les performances, tu as eu des retours d'expérience par rapport à des VM ou des environnements plus traditionnels? Tu as eu l'occasion de faire des comparaisons ou pas?
Non, j'ai pas eu cette occasion pour l'instant. C'est quelque chose qui va arriver puisque là, j'ai mis dans une société, j'ai mis en place cette partie Windows Container. Donc, les développeurs sont en train de tester leurs applications dessus. Et du coup, on devrait avoir des retours de par rapport aux performances incessamment sous peu. Après, il va y avoir des stress qui vont être faits par rapport à tout ce qui est IOPS sur les disques, savoir exactement ce qu'on peut faire et tout ça. Et par contre, moi, là, je parle pour la partie on-prem. Il n'y a personne qui utilise les Windows Container sur Azure. Après, on utilise aussi pas mal les Hyper-V containers, donc pour des plus grosses applications et des applications qui ont besoin, on va dire, d'être vraiment dans un bloc séparé. Là, par contre, on commence à utiliser aussi les Hyper-V containers, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore utiliser dans Azure, à moins que ça ait changé très récemment. Pourquoi ? Parce que quand on fait une VM, il faut du nested Hyper-V en 2016 et c'est pas possible à l'heure actuelle sur Azure, quoi.
Et je te rassure, ça, c'est pas possible du tout, c'est clair. C'est pas prêt d'arriver, a priori.
Ouais, voilà. Parce que pour faire ça, il faut que les hosts Hyper-V qui sont sur Azure soient sous 2016 aussi. Donc voilà.
Exactement. Et moi, je reviens sur la partie perf, sur les conteneurs. Sur les conteneurs Linux, parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de trop jouer avec des conteneurs Windows. Nous, on a perf quasiment similaire avec de la VM Linux. Hein. On n'a pas vraiment, on note pas de différence en tout cas sur les stress tests qu'on a fait sur les applis. On c'est pas notable. Y a sur le stockage, il y a une légère inflation au niveau IOPS quand on est sur de la grosse volumétrie de données type ELK. Mais clairement, ça se ressent pas. Et quand ça se ressent, on fait un scale-up, on démarre un autre conteneur et ça absorbe complètement la charge qui va bien, quoi.
Et les tests que tu as fait, c'est sur combien de conteneurs, sur combien d'instances hein?
Ça dépend en fait. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est partir sur un chiffrage bas en termes de nombre de conteneurs. Typiquement, si on sait que l'application avant avait besoin d'un serveur Apache avec 8 Go de RAM et 4 CPU, tu vois, on partait sur un conteneur avec une limitation à 1 CPU et 2 Go de RAM. Et on scalait en fait, on regardait comment se passait le scale-up
avec Kubernetes en fait de manière automatique, voir si les performances étaient encore au rendez-vous et si on arrivait à tenir la montée en charge et à la vitesse qu'il fallait, quoi.
D'accord.
Et on arrive à des performances complètement équivalentes, quoi. Sachant que comme ça, notre client, lui, sur Azure, va gagner beaucoup d'argent parce que bah, quand son application va pas tourner ou ralentit en tout cas la nuit ou le week-end, par exemple, eh bien, il va pas payer des VM extrêmement puissantes pour rien, quoi.
Ouais, c'est l'avantage d'Azure, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, par rapport à du on-prem, c'est clair qu'il y a, il y a d'autres avantages. Ouais.
Cette fonction de scale out et scale down automatique, c'est ACS qui le fait ou c'est Kubernetes ?
C'est Kubernetes qui s'en occupe, ça. ACS, en fait, il te propose, il te met à disposition des VM avec les load balancers, il crée les connectiques réseau, les VNet, les NSG qui vont bien, etc. Maintenant, c'est Kubernetes qui va se charger de créer d'autres VM et de les rajouter dans le pool automatiquement.
Et du coup, quand tu rajoutes des containers, tu les rajoutes sur le même Docker Engine ou tu les splits sur chaque
écosystème ? Ouais. Ça dépend de la politique que tu as mis en place à la création de conteneurs, mais c'est soit un round-robin, donc il va les déployer après sur chaque nœud, soit tu définis des pods sur lesquels il doit aller déployer ses conteneurs. Tu peux aussi mettre des namespaces, des labels, on va dire, qui vont te permettre d'aller cibler uniquement tel nœud Docker et en laisser d'autres, par exemple, si tu veux libérer des ports 80 pour d'autres applications ou des choses comme ça.
D'accord.
Mmh. Ok, et niveau licensing, ça se passe comment sur la partie Azure ? Tu payes. Allez, dès que tu fais une instance, tu sais l'équivalent d'une VM ou...
Ouais, en fait, quand tu rajoutes un nœud dans ton conteneur, dans ton cluster Kubernetes, bah, tu prends les coûts associés à ta VM, associés au trafic réseau, associés au load balancer, et que c'est bah, comme si tu montais une infra IaaS en fait, dans Docker, dans Azure, quoi.
Ouais, voilà, c'est équivalent. On peut faire un sizing directement via le Azure Price Calculator, et puis voilà, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Nous, l'idée, ce qu'on aimerait bien faire, c'est carrément dans notre portail CSP, tu vois, pouvoir mettre à disposition en clic bouton des infra Kubernetes pour nos clients de manière complètement simple.
Ouais, tout à fait.
Alors, il y a d'autres solutions pour faire du container dans Azure, du Docker dans Azure. Il y a notamment des solutions qui sont fournies par Docker. Notamment il y a Docker for Azure qui est pas mal du tout d'ailleurs, hein. Ça permet de générer automatiquement un cluster Swarm à la mode 1.12 en fait, qui est en mode, alors je crois, si je me souviens bien, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais il me semble que ça utilise des VM scale set d'Azure pour les nœuds qui vont exécuter des containers, quoi. Et que donc ce qu'ils ont développé, donc les containers qu'ils ont développés pour Docker for Azure, s'interfacent avec, avec la fabrique, donc avec Azure, pour gérer justement ce scale-out au niveau du VM scale set.
Ouais, je confirme. C'est le même mode de fonctionnement que dans Azure Container Service pour un cluster Swarm, en fait.
Ouais, sauf que c'est un Swarm 1.12, quoi.
Ouais, un vrai Swarm, entre guillemets, quoi.
Enfin, un nouveau Swarm, disons.
un qui marche bien, quoi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que si vous montez des clusters Swarm Docker Windows avec les dernières mises à jour Windows 10 Insider et la dernière version, ouais, Docker Engine, vous allez pouvoir monter un Docker Swarm full Windows avec le réseau overlay et tout ce qui va bien, quoi.
Qui marche
mais en preview
ouais.
C'est que sur Windows 10 Insider. T'as pas réussi à le faire marcher sur un Windows Server 2016?
J'ai pas vu la news passer. Fin janvier ça marchait pas.
D'accord, donc ça vient vraiment du moteur, ça vient pas que du service Docker D, quoi.
Non, ça vient du c'est la stack réseau, ouais, Windows qui, ouais, s'appelle HNS, comme Host Network Service, je crois, qui est en fait un layer d'abstraction entre les API Docker le système Windows au niveau de la gestion du réseau, en fait. Ça évite comme ça aux mecs qui développent Docker de devoir changer les commandes ou le code pour aller piloter, que ce soit Linux ou Windows.
On attend avec impatience ce nouveau Windows 10 du mois de mars, là. Pas que pour ça d'ailleurs. c'est le Creators Update hein, qui va contenir ça.
Ouais.
Je pense. Et il y a une autre chose que j'attends avec impatience dans le Creators Update, c'est le nouveau Windows Service for Linux, WSL. Donc le nouveau noyau.
On va faire du NFS ?
Du NFS, je sais pas, mais la stack réseau a été refaite, enfin complétée, quoi. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui marchent, notamment des outils de base du réseau, quoi, le ping, des choses comme ça, quoi, qui marchaient pas du tout dans le bash jusqu'à maintenant. Alors, je sais pas si des outils sérieux comme Nmap vont marcher, hein. Ça, c'est la première chose que je testerai, évidemment. Mais je ne sais pas si ça marchera, mais déjà, il y a beaucoup plus de choses qui marchent. Et il y a même possibilité de faire tourner l'interface graphique d'Ubuntu par là-dessus, quoi. À condition d'installer son propre serveur X, mais a priori, c'est plus intégré.
Ok, cool.
Donc voilà. Encore autre chose. Et si ça pouvait améliorer les perfs quand on utilise la V2 de Azure Cli, franchement, ça serait pas mal aussi. Comme je n'ai pas testé, je ne peux pas dire. sinon, pour revenir au container dans Azure, il y a d'autres solutions aussi, puisque tout ce qui permet de faire des clusters, a priori, hein, tout ce qui permet de faire des clusters de containers, on peut les tourner dans Azure, et notamment les solutions de nos partenaires, notre partenaire Red Hat, qui s'appelle OpenShift, qui existe en deux versions. Il y a une version open source qui s'appelle OpenShift Origin, et puis une version commerciale qui s'appelle OpenShift. J'ai un trou, Cloud Container Platform ou Cloud Platform, donc Container Platform, je crois, OCP. Donc on n'a pas, c'est pas dans le marketplace aujourd'hui, mais on a dans les Quick Start Templates d'Azure des modèles qui permettent de déployer en ARM des clusters OpenShift. Donc dans OpenShift, on retrouve donc outre les développements propres à Red Hat, propres à OpenShift, on retrouve Kubernetes comme orchestrateur de containers. Donc on trouve les mêmes principes. Bon, en plus, il y a des fonctionnalités intégrées de CI/CD, Continuous Integration Deployment, etc. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles je travaille en ce moment avec nos partenaires de Red Hat sur différents projets. Et j'espère pouvoir en dire plus, en raconter plus de choses là-dessus d'ici quelques semaines ou mois.
D'accord. Et ça, du coup, ça serait disponible dans Azure ?
Alors aujourd'hui, on a des templates, c'est ce que je disais, hein, des templates, quick start templates, tu vois, c'est dans GitHub. Ouais. On a deux templates fournis par nous, un pour la version origine, donc la version open source, et puis un pour la version. Attends, je dis peut-être des bêtises. Non, il y en a un autre pour la version commerciale, mais qui a été écrite par quelqu'un de Red Hat. Je mettrai le pointeur puisque c'est dans GitHub, je mettrai le pointeur dans l'article associé. Alors la version que j'ai essayé moi pour me faire la main un petit peu sur OpenShift, c'est la version origine, la version open source, gratuite donc.
D'accord.
Avec CentOS et OpenShift Origin. Évidemment, quand je l'ai essayé, ça marchait pas. Donc en fait, je suis tombé à un moment. Alors c'est terrible. C'est le problème, mais j'en veux pas à personne. Hein. C'est comme ça.
C'est
quoi.
Plus compliqué que Skype ou.
Les gens vont pas comprendre.
C'est pas grave. Disons que quand tu utilises un truc qui vient de GitHub, le truc en question, en général, il fonctionne pas tout seul, quoi. Il va chercher des choses qui sont ailleurs dans GitHub, quoi, ou ailleurs. Et il n'y a pas forcément de synchro entre ces différentes choses. Et là, en l'occurrence, dans le script d'installation appelé par le template ARM qui est installé OpenShift, là, on allait installer Ansible. Et on utilisait Ansible pour déployer tout OpenShift. Donc c'est un énorme script Ansible qui allait installer tout OpenShift, quoi, avec Kubernetes et compagnie et tout ça. Et donc ce script-là fonctionnait quelques minutes et planté à un moment. Et en cherchant bien... en fait, c'était un bug de Ansible, de la dernière version de Ansible, qui était la 2.2.1.1, je crois, ou 1.0, qui était la dernière version, parce que dans le script en question du template ARM, eh ben, on disait simplement « youminstall Ansible », en gros. En gros, ça veut dire « j'installe la dernière version d'Ansible ». Mais la dernière version d'Ansible, c'était plus la même que quand ils avaient écrit le script, et ça plantait avec ce script-là, quoi. Donc, bug connu, il fallait revenir à une ancienne version de Ansible. Ils ont corrigé le truc au bout de quelques jours, et voilà. Quoi. Donc, tout est rentré dans l'ordre, hein, tout fonctionne bien maintenant. Mais c'est marrant, quoi. On tombe souvent sur ce genre de problème-là quand on prend des choses dans GitHub qu'on ne maîtrise pas trop. Enfin, tu vois, on y va un petit peu, un petit peu doucement.
Il y a aussi autre chose qui marche jamais dans GitHub sur le Quick Start Template d'Azure, c'est les versions d'API. Quoi. C'est pareil, c'est une horreur. Quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Quand on les spécifie pas.
Ouais, ou quand on prend celles qui sont dans GitHub, en fait, ça a évolué, ça a changé, c'est revenu en arrière.
Voilà.
Ouais, c'est, voilà. faut faire un peu de tricot, des fois. Pour
voilà, savoir. C'est ça. C'est le fun quotidien de nos métiers.
Après, Pascal, pour rebondir un peu... Tu parlais de OpenShift, mais aussi sur Azure, on a la partie container, on a le site Docker Data Center qui existe.
Ouais, tout à fait.
Donc cette partie-là, bah, c'est une licence, on va dire, bah, Docker Data Center qui peut être mis on-premise aussi. Hein. Donc on peut avoir dans notre propre data center. Seul truc, bah, allez, on doit payer bah, les instances sur Azure et en plus il y a une licence à payer. Et c'est de tête, il me semble, de mémoire, c'est à peu près le minimum. Enfin, la licence la plus petite, c'est $150 par instance. Donc voilà, ça peut vite revenir cher aussi. Donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais bon, dans cette licence, vous avez bah, tout ce qui est UCP, donc le control panel. Et après, la Trusted Registry, donc on a parlé de ACS, ACR, bah, c'est un peu, on va dire, un équivalent donc, avec la partie bah, container et registry. Et Fabien, tu me diras si je me trompe, mais il me semble que sur cette partie-là, c'est du Docker Swarm, par contre, qui est utilisé.
Ouais, tout
oui,
à fait.
C'est le cas.
Docker Data Center. Mmh. Ouais.
J'ai déjà pratiqué avec un client, et en plus, donc, tu disais qu'il y avait donc le AC, le registry, donc qui fait partie du prix, quoi. Mais il y a aussi le Docker Engine supporté. Le customer supported, c'est ça? Customer supported Docker Engine.
Ouais, c'est ça. Ouais.
En plus du reste. Ouais.
Docker Engine, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc on va dire que c'est un package par instance. On va dire on a l'UCP, donc le control panel, le registry et puis le Docker Engine.
Alors il y a une V2 qui est sortie récemment de ce truc-là, de Docker Data Center. Donc il corrige pas mal de limites qu'il y avait avec la V1. Il y avait pas mal de choses manuelles à faire, mais je trouve qu'il y a encore quand même pas mal de choses manuelles à faire. Quand on
ouais, bah déjà la partie certificat, je sais que moi par exemple voilà. Pour la partie certificat pour le DTR c'était tout intégré pour la Trusted Registry. Mm. Par contre pour l'UCP il fallait le faire au moment du déploiement de l'UCP, il fallait modifier des fichiers, tout ça c'était un peu galère. Là ils l'ont intégré directement à la console maintenant. Il y a des mises à jour quand même assez régulièrement, je trouve. Donc il y a quand même un suivi derrière, quoi. Après l'avantage de cette partie là c'est que ben on peut avoir des containers qui peuvent être sur Azure mais qui peuvent être aussi on-premise si on a un side-to-side VPN entre Azure et notre data center ou un ExpressRoute. On peut très bien ben, avoir du load balancing par rapport à ça, des instances sur Azure, des instances on-premise. Donc voilà, c'est aussi ça peut être bien pour tout ce qui est achat, quoi. On l'a vu hier avec Amazon Web Services. Donc ça peut être bien d'avoir ben, je sais pas sur Amazon des instances et des instances
tu veux dire qu'il s'est passé
Azure,
quelque chose hier chez Amazon?
Non, il s'est passé quelque chose hier.
J'ai cru entendre ça.
Disons que ça nous a impacté un petit peu cette histoire.
Ouais, moi c'est bizarre, je pouvais plus rien pouler sur Docker, quoi.
Ouais, c'est bizarre, hein. Et en fait nous ça nous a impacté parce que hier on sortait hier ou avant-hier, je sais plus, on a sorti une nouvelle version de Azure PowerShell. Et Azure ouais. PowerShell, on publie dans GitHub. Et donc,
ouais.
Tout GitHub étant dans Amazon S3, c'était dans les choux.
Et ouais.
Et ça, c'est des gens qui n'ont pas compris que le cloud, ça ne voulait pas dire mettre tous tes œufs dans le même panier. Quoi. C'est...
Bah, CF ton tweet hier. Quoi.
Ouais.
J'ai pas vu.
C'est pour ça qu'on parle de fog computing.
Ah oui.
Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Docker Data Center, c'est un super produit qui est un petit peu cher à mon goût, quoi. Il y a un petit outil qui s'appelle Rancher qui permet de faire des choses assez similaires et d'aller déployer un peu partout sur n'importe quel cloud et ou fournisseur privé des conteneurs. Et c'est lui qui va s'occuper de monter des réseaux en fait VPN entre les différents conteneurs. Je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment sympa, avec toute une belle interface intégrée. Il y a une version ligne de commande si on veut faire le barbu, mais si vous voulez jouer, monter des load balancers facilement entre des conteneurs, déployer des stacks de services entre Azure, Amazon, Rackspace, on-prem, sur du cloud, sur de l'OpenStack ou tout un tas de choses, il y a tous les outils qui sont nécessaires pour faire ça de manière assez simple, et justement on peut s'affranchir justement de ces problèmes qu'on peut avoir sur des data centers assez facilement avec. Alors il a des limitations, hein, il n'est pas parfait, mais si vous voulez commencer à jouer, donner envie à vos développeurs ou aux mecs à l'IT chez vous d'aller sur des conteneurs, ça permet de commencer doucement mais tranquillement, quoi.
Et niveau licensing, ça donne quoi?
C'est gratos, enfin okay. C'est open source, quoi.
D'accord, ok.
Ouais, c'est une bonne info, ouais.
Rancher.
Ouais.
Pour des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens pour tout ce qui est license, mais qui veulent quand même investir dans les conteneurs, ça peut être une bonne opportunité.
Ouais, après, il faut toujours payer tes subscriptions Azure ou Amazon. Hein.
Ouais, non, mais ça, on est d'accord. Ouais.
Mais ouais, ouais. Ça marche plutôt pas mal, quoi.
Ouais. Ouais, parce que Docker Data Center, on paye nos licences Azure ou Amazon, mais en plus, on paye le coût de la licence du data center, enfin, de Docker Data Center.
Ah, faut bien qu'ils vivent, hein, les petits gens chez Docker. Hein,
tout à fait. Au bout d'un moment, l'open source s'arrête à un certain point.
C'est clair.
ACS, c'est gratuit.
ACS, hein, c'est gratuit, ouais, tout à
ACS,
fait.
ACS, c'est gratuit.
Ouais, pareil, tu payes ton Azure. Ou, voilà,
tu payes l'infra.
Ouais. C'est pas déconnant. Il faut savoir que il y a des services de Google qui tournent avec du Kubernetes derrière. Ça marche plutôt pas mal, genre de technologie.
Complètement. Bah, ça vient de chez eux, hein, de toute façon.
Bah, c'est ça. Ouais. C'est un fork de leur outil maison, en fait, d'orchestration. J'ai vu qu'il y avait Netflix qui avait sorti un orchestrateur aussi. Open source.
D'accord, Netflix.
Ouais. J'étais en train de regarder le.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait quand tu tapes sur ton clavier, hein, Fabien. Tu peux pas passer un entretien à distance.
Il a un clavier IBM des années 80. Non.
Ah, c'est pour ça que les certifs et tout, je les ai pas eus.
Alors, Netflix.
On retourne au Moyen-Âge avec son clavier. Quoi. Quand les claviers, ils faisaient du bruit. J'ai même pas connu ça, quoi.
Par contre, Pascal, il connaît. T'inquiète.
Ah, les claviers IBM des années 80 qui font du bruit, oui, j'ai connu. Ouais. C'est clair.
Franchement, je vois pas de quoi vous parlez.
Donc t'as pas trouvé, Fabien?
Je suis en train de chercher.
Son clavier était pas assez rapide.
Ouais, il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. C'est Nirmata. Je crois que c'est ça.
Nirmata.
Nirmata, ouais. À confirmer aussi, ouais, je crois que c'est ça. C'est pas très clair.
Ok.
Mais en gros, ils ont, c'est leur orchestrateur interne à eux qu'ils ont publié en open source, en fait. Quoi.
D'accord.
Je sais pas, j'ai pas testé par contre, je sais pas ce que ça vaut.
Florent, tout à l'heure, tu parlais de container Windows et donc de clients à toi qui l'utilisaient dans des POC. Tu nous as pas dit s'ils utilisaient plutôt des containers Windows Server Core ou Nano Server?
J'ai vu que du Windows Server Core pour le moment. Sur la partie Nano Server, moi personnellement, je trouve déjà qu'on est assez vite limité. Que ce soit au niveau des features, à part faire tourner du IIS sur du Nano Server Core. Après, on peut faire tourner du DNS et compagnie, mais bon, dans les conteneurs, moi, je trouve ça un peu limité pour le moment. Non, c'est beaucoup de Windows Server Core pour le moment qui est utilisé. Certes, l'image est beaucoup plus grosse. Je crois que c'est à peu près 9 gigas pour l'image de base, on va dire, comparé à un Nano Server qui est même pas de 1 giga. Mais voilà, pour le moment, c'est beaucoup de Windows Server Core, justement pour s'enlever tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des installations de packages et tout ça, où on est quand même assez limité, je trouve, sur Nano Server.
D'accord. Donc, côté développement applicatif .NET Core, tu penses aussi que on n'est pas encore à développer des applications en .NET Core?
Pour moi, pour le moment, c'est un peu compliqué. Après, certes, l'image, c'est vrai que l'image à déployer est quand même, quand on fait un déploiement d'un Server Core et d'un Windows Server Core, enfin, c'est quand même très rapide la partie Nano Server Core, mais ouais, voilà, on ne peut pas faire pour moi tout ce qu'on fait actuellement avec un serveur, alors qu'avec Windows Server Core, on se rapproche quand même beaucoup d'une VM, donc on peut installer des features, on fait un add Windows, install Windows Features et voilà quoi. Donc c'est quand même plus intéressant. Pour moi, ça dépend des workloads après, hein, donc ça dépend ce qu'on veut faire tourner derrière, mais pour moi, il y a quand même beaucoup plus de possibilités avec cette partie-là quoi.
D'accord, ok. Concernant la taille des images, le fait qu'on voit 9 gigas, 8 ou 9 gigas, je sais plus, pour un Windows Server Core, déjà en fait c'est le double de ce qu'on télécharge la première fois. Hein, on télécharge pas 9 gigas quoi, quand on fait le premier Docker pool. Et ensuite, quand on fait, c'est pour rassurer les gens un petit peu qui peuvent trouver étonnant qu'on ait des images de containers qui fassent 9 gigas. En fait, pas du tout. C'est le double de l'image elle-même. Et ensuite, quand on va faire par exemple un Docker push pour envoyer tout ça vers un repository, on ne va pousser que les deltas.
Exactement.
Donc ouais. Globalement, ouais. Le push ne sera jamais dramatique.
Les sources, quoi. Ouais, tout à fait.
Ouais. Ça sera juste le delta de l'image.
9 gigas à chaque fois, quoi.
Heureusement.
Heureusement. Bah, c'est les compagnies de stockage qui seraient contentes, quoi.
Et de réseau aussi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais après, ça serait un peu le repartir, on va dire, à zéro, puisque bah, on fait tout pour économiser, on va dire, bah, tout ce qui est stockage, réseau et compagnie, en mettant tout sur des containers. Et au final, bah, qu'est-ce qu'on fait? On repousserait bah, 9 gigas à chaque fois, donc on recloderait une image. Du coup, on utiliserait plus de stockage qu'à l'origine. Quoi. Donc, ouais.
Moi, j'ai une question sur les images Windows qui tournent dans des conteneurs. Comment ça se passe au niveau des licences? C'est-à-dire, on peut, est-ce que c'est comme des VM avec des Windows Edition Data Center? On fait ce qu'on veut. Et avec du standard, on est limité à deux conteneurs. Est-ce qu'il y a des limites comme ça?
Ouais, j'ai publié un blog post la dernière fois par rapport à ça. Je peux essayer de le retrouver parce que je ne me souviens plus exactement. Mais il me semble que si tu es sur une VM où tu as des conteneurs dessus et que tu es sur un Hyper-V avec un data center, bah, tu es couvert. Du moment que ta licence est data center, tu peux faire tourner autant de conteneurs que tu veux, comme tu viens de le dire. Il me semble que c'est t'es limité à deux conteneurs pour.
Oui, c'est le même principe que les VM.
Ouais, exactement. Ouais. Je peux le retrouver, j'ai écrit un peu de post par rapport à ça, parce que le licensing est sorti il n'y a pas très longtemps par rapport à ça.
Il y a une différence entre des Windows containers et des Hyper-V containers.
Tout à fait.
Quand on fait un Hyper-V container, on fait une machine virtuelle. Et donc là, on tombe dans le même mode que les machines virtuelles Hyper-V.
Oui, voilà, on a une isolation, que ce soit réseau. De toute façon, je pense que tu mettras mon blog, j'ai écrit un article aussi là-dessus. Ouais. J'avais fait une présentation pour le French User PowerShell User Group où je faisais justement une démonstration entre un Hyper-V container et un Windows Server container. Donc, par exemple, quand on crée un Windows Server container, ça n'instancie pas le process VM, on va dire. Alors, quand on crée un Hyper-V container, ça crée un nouveau process de type VM sur la machine sur laquelle on crée. Donc il y a ce jeu, voilà, il y a ça. Après pareil, les process dans un Windows Server Container, en fait, ils tournent sur la VM de base, sur la VM sur laquelle on déploie nos Windows Server Container. Alors que les Hyper-V, ça le crée. Le process, il n'est pas créé dans la VM, mais dans une autre VM de l'Hyper-V Container. Donc on peut pas voir ces différents. Mais pour le faire, je pourrais chez l'User Group, j'avais fait une session par rapport à ça sur toute la partie Windows Server Container. Il y a cette démo là dedans, et donc voilà, on voit bien l'isolation des conteneurs entre un Hyper-V Container et un Windows Server Container.
Excellent, je mettrai le pointeur, tu me l'as donné, donc c'est cool.
Il n'y a pas de souci, voilà. Ouais, donc voilà, pour confirmer ce qu'on disait, sur une version data center, sur une version data center et standard, pour tout ce qui est Windows Server Container, on est illimité. Par contre, pour les Hyper-V Container, on est illimité sur une version data center et on est limité à deux pour une version standard.
D'accord.
Donc voilà. Donc par exemple, on déploie une VM standard, on peut faire tourner autant qu'on veut de Windows Server Container. Par contre, on peut déployer que deux Hyper-V Container.
C'est assez logique, okay. Puisque dans le cas du Windows Container, on n'a pas de nouveau noyau Windows, on a juste les process des containers qui tournent en plus.
Ouais, c'est vrai qu'on partage le kernel. Ouais.
Exactement, on compte les noyaux Windows qui tournent. Ça me paraît assez logique.
J'ai une autre question, tiens, toi qui as poké du SQL Server dans des conteneurs chez des clients. Là, c'est encore une fois, c'est pareil. Comment ça se passe au niveau de la licence du SQL Server? Est-ce qu'il faut une licence spécifique ou est-ce qu'on prend la licence standard ou enterprise et puis roadmap? Parce que moi, c'est une question qu'on m'a posée et j'ai pas été capable de répondre, quoi.
Ben, je ne saurais pas te répondre non plus. J'en ai aucune idée.
Ok.
Moi non plus. Mais dans le doute, il faut
tu
payer.
Tu aurais une autre question?
Non, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée.
Ok. Okay. Parce qu'on m'avait posé la question sur Linux aussi, mais là, c'était sûr que personne n'avait la réponse. Mais Windows, peut-être que toi, tu l'avais. Quoi.
Moi, j'ai un vague souvenir comme quoi on achète SQL Server et ensuite, on l'utilise comme on veut. Sur Linux, sur Windows ou... dans un container.
Ah, d'accord.
Je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est le principe.
D'accord. Oui. Donc tu payes par rapport au nœud de ton hôte, en fait, tes licences SQL Server et pas du nombre de CPU, pardon, que tu vas avoir dans ton conteneur. Ça serait ça l'idée, quoi. Un peu comme tu fais de la VM, etc. Quoi.
Mais je parlerai qu'en présence de mon avocat.
Hein. On met pas ta main à couper non plus.
Non, je ne mets pas rien à couper. J'ai pas le diplôme licence.
Ouais,
on va dire que c'est un métier à part entière. Ouais,
c'est un
ouais.
Métier.
Enfin,
c'est
moi
un
je
métier.
Sais que chez Econocom on a une team qui fait que du licensing. Quoi.
Oula.
Ouais. Oui, oula, ouais.
Désolé.
Toutes les technologies comme OMS et compagnie.
Désolé.
On va dire que ça commence à être très compliqué. Par exemple, OMS ça change tous les 4 matins le licensing.
OMS, même les gens de Microsoft qui savent pas répondre quand tu leur demandes.
Je suis d'accord, je suis allé suivre une session en tant que PCLer la semaine dernière. Ouais. Je suis allé la semaine dernière en tant que PCLer à une session et c'était encore vague quoi.
On m'a dit il faut faire du POC et puis après ça te donne des abacs pour ton client quoi.
Vive le cloud.
C'est ça. C'est... On vous dit que ça vous coûtera pas trop cher, mais potentiellement ça peut vous ruiner. Quoi.
Ouais, et on vous dit que ça va simplifier le schmilblick, mais au final on sait pas trop.
Ouais, c'est ça.
Bah, il faut les enfin, entretenir.
C'est sûr qu'à la fin du pot, t'as qu'une seule facture, quoi, par contre.
C'est vrai.
Alors donc la question finale qui tue. Quand est-ce qu'on fera de la, qu'on mettra tout ça en prod chez des clients? Et qu'est-ce qui fera que enfin on verra des applis vraiment en prod sur des containers et puis espérons dans Azure.
Ouais, je pense que déjà, là les questions qu'on se pose sur les pairs, sur savoir si je mets une base de données ou pas une base de données, ça me rappelle il y a quelques années, on se posait exactement les mêmes questions sur les VM, quoi. Quand on a commencé à déployer des VM, on se disait, bon, déjà, c'est pas fait pour de la prod. Dès qu'il y a besoin de performance, on va pas en mettre, ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, ben, on voit qu'on tourne qu'avec ça, quoi. Donc, pour moi, ça va quand même dans le sens des choses aujourd'hui, hein. Alors, peut-être que dans 5 ans, on aura une nouvelle techno, une nouvelle réflexion qui va arriver. Mais ça fait quand même partie de ce mouvement, où on a besoin d'être beaucoup plus réactif. D'être capable de délivrer très rapidement, travailler sur des cycles, sur des sprints qui sont récurrents et ce genre de choses-là. Et typiquement, il faut les outils et les infras qui vont avec, quoi. Donc, je pense que ça va vraiment dans le sens et que les évolutions vont arriver avec. Après, en termes de délai, je pense qu'on devrait pas trop tarder quand même à avoir des choses qui tournent. Enfin, de toute façon, il y a déjà des grosses plateformes en production qui tournent là-dessus. Hein.
Oui.
On parle des gros éditeurs tout à l'heure et c'est vrai qu'ils sont déjà dessus. Donc mais je pense qu'on en est là aujourd'hui. On se pose les mêmes raisonnements, les mêmes discussions que ce qu'on avait il y a quelques années sur les VM. Et quand on voit ce que sont devenus aujourd'hui les VM, on se pose plus la question de savoir s'il faut mettre, si on peut faire tourner des grosses bases de données sur des VM, quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'est l'avantage d'avoir une personne âgée avec nous pour nous expliquer tout ça et avoir un bon
d'expérience.
Oh, c'est tellement bien sorti, quoi.
Non, parce que moi, personnellement, j'ai pas connu ça. Personnellement, j'ai commencé ma carrière, tu vois, il y a 4 ans et demi, 5 ans, et c'était déjà de la VM, donc je savais pas ce que c'était les gros data centers avec que des serveurs physiques dedans.
On te racontera ce que c'était. À l'époque où il n'y avait pas Google pour chercher quand tu étais planté.
Ça, c'est vrai, ouais.
On avait les CD TechNet, tu te rappelles.
France 3, tu sais, en noir et blanc, avec marqué INA en bas.
Tu te rappelles, Jean-François, on avait les CD TechNet.
Oui, les CD TechNet, ou les BBS, pour ceux qui ont encore connu ça à l'époque.
Ou les BBS, exactement.
Ouais.
Je confirme.
On va peut-être vous laisser entre vieux.
Ouais, avec Fabien, on va aller boire une petite bière et puis voilà. Quoi.
Ah, mais nous aussi.
Ouais. Et plus d'une.
Bah, par contre, pour revenir à ta question, Pascal, moi, je dirais que l'adoption des conteneurs, elle est voulue. Enfin, nous, moi, je bosse pas mal avec des gros groupes type CAC 40, etc. Mm-hmm. Ils ont envie d'y aller, quoi. Mais ils ont tellement d'applications, tellement de choses qui ont été développées il y a pas si longtemps que ça, qui n'ont pas été développées dans une volonté de faire du microservice, que le delta, souvent, pour mettre en place des infra Docker ou conteneurs en général, parce qu'il y a Rocket dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait être aussi utilisé. Ça va dépendre du delta qu'il y a à mettre en place pour repasser d'une application monolithique vraiment à quelque chose qui est conteneurisable, entre guillemets, de manière à passer en production. Et ça, on pourra pas y passer, je pense. Hein. On pourra pas y couper, plutôt.
Tu penses qu'il va falloir développer pas mal d'applications, quoi.
Ouais, il y a clairement du boulot là-dessus, ouais. C'est une volonté des DSI à aller investir dans cette techno-là, modulo le fait de rester sur des choses qui tournent sur des VM. Faut qu'ils y voient vraiment un gain, en fait, quoi. Tant que tu sais, faut parler ROI, hein, ces gens-là. Hein. S'il n'y a pas de ROI, ils signent pas, quoi.
Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'au lieu de faire de l'IT, au lieu de faire de l'IT pro, faut qu'on fasse du dev maintenant, quoi. Parce que notre métier va mourir, mais les devs, ils vont devoir tout recoder, quoi.
Non, mais justement, c'est pour ça qu'on parle de DevOps, parce que si tu abordes ça sous cet aspect-là, avec en mettant en avant toute la partie organisation, gain qu'on peut en tirer, c'est comme ça que ça va tirer, parce que du coup, si t'arrives à démontrer que ton application, tu peux la faire évoluer, mais t'es sur des cycles beaucoup plus rapides. Et il n'y a plus de frein, il n'y a plus de frein à la mise en œuvre, au déploiement, quoi. T'es plus obligé d'attendre 18 mois quand t'es sur ton plan projet. Et là, t'as un vrai gain, quoi. T'as un gain immédiat, t'as un gain de compétitivité dans les entreprises. Enfin, il y a tout ça qui va avec. Parce que les DSI, eux, effectivement, ils raisonnent encore en termes de leur système d'information, mais quand tu discutes avec les métiers, enfin, ils en ont marre, quoi. Donc ça va vraiment dans le sens.
Mais
je suis complètement en phase avec toi, Jeff, là-dessus.
Voilà. Cela dit, c'est plus facile pour des nouvelles applications que réarchitecturer de fond en comble des anciennes applications, quoi.
C'est clair. Nous, on le voit là, on est sur un projet, un gros projet avec un client là, et on lui a proposé que du web API REST. Et du coup, ça pousse tous les 15 jours des nouvelles releases complètes de manière complètement automatique. Moi, je suis pas développeur, hein, j'en avais entendu parler de ces trucs-là. Hein, j'avais vu des articles de grosses boîtes. Et en fait, quand tu vois ce qui se fait, même au bas de la rue, là, c'est bluffant, en fait, hein, de simplicité, de rapidité. C'est vraiment des trucs de fou, quoi.
Bon, est-ce qu'on a fait le tour du sujet, messieurs?
Oh ben c'est déjà pas mal.
Ouais, je pense que...
On a déjà bien dépatouillé la chose.
Les gens qui nous écoutent seront ravis de savoir qu'ils pourront bientôt mettre en prod. En tout cas, on a donné pas mal de pistes, pas mal d'outils, pas mal de produits, de config, etc.
Vous pouvez convaincre leur DSI, quoi.
Oui.
Bonne chance.
Pour terminer, est-ce que vous avez, les uns les autres, une actualité communautaire ou événement, des choses prévues dans un futur proche.
Mais donc, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que nous, donc sur Aix-en-Provence, donc le 30 mars, on organise une étape de ce qui s'appelle le AOS Tour, donc avec la communauté AOS, et donc c'est co-organisé du coup avec la communauté CMD. Et là, du coup, il y a même Microsoft qui vient aussi se rajouter, puisqu'ils ont pris un track supplémentaire pour parler des data. Donc voilà, c'est un rendez-vous le 30 mars. Ça se passe au CESI, donc sur la zone de la Durane, pas loin de la gare TGV. L'agenda a été publié, hein, donc on le trouve sur les réseaux sociaux. Il y aura pas mal de MVP qui seront présents. Je crois que effectivement Pascal, tu seras avec Stan aussi pour faire le keynote. Donc il faut pas trop tarder parce qu'on commence déjà à avoir pas mal d'inscrits et on risque d'être un peu victime de notre succès, donc ça c'est pas mal. Et puis ensuite, CMD aussi participe à l'organisation du Global Azure Bootcamp. Donc ça c'est un événement qui aura lieu au mois d'avril, ça se déroule un samedi et c'est une date unique et ça se passe sur toute la planète.
C'est le 22
avril. C'est un événement mondial, hein, qui se déroule partout à travers le monde le même jour. Et donc là, nous, on va travailler donc sur l'organisation de cet événement sur Aix et Nice. Sachant qu'il y a d'autres villes en France qui sont impliquées, donc à Paris, Lyon, Strasbourg et peut-être d'autres, mais je les ai pas en tête.
Alors j'ai Paris, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Nice et peut-être Toulouse.
Mm-hmm. Et peut-être Nantes aussi après.
Peut-être. Ah super. Ah, bonne nouvelle. Parce qu'on avait rien dans l'Ouest, c'est super s'il y a Nantes. Effectivement.
Et donc faut juste qu'on sorte un peu les doigts du.
C'est cela. mais non, mais ce serait super. Personnellement, moi, je serais à Nice, donc avec Estelle pour.
D'accord.
Bah, je sais
bah,
pas. Pour...
Bah, il va au
tu,
soleil.
Tu seras à Nice aussi, cool.
Ouais, je serai. Moi, je m'occupe. Je suis à Nice avec Estelle aussi.
Estelle, qu'on peut féliciter pour avoir obtenu son titre MVP.
Oui, aujourd'hui. Oui. On peut lui faire une petite dédicace. Hein.
Spéciale dédicace à Estelle. Donc, elle a eu son titre MVP, c'est ça?
Aujourd'hui. Ouais.
D'accord.
Aujourd'hui, oui.
Donc, MVP, cloud, etc.
Je sais pas si elle est cloud, je sais pas sur quelle techno elle est.
Je dirais plutôt Azure, comme ça, vu le nez. Quoi. Mais, du coup, moi, c'est pareil, le 30, je serai à Aix aussi, avec Jeff, Pascal, et toute une clique de Joyeux Lyon à parler de... Bah d'Azure et Docker, moi je vais discuter de ça avec vous et présenter majoritairement Kubernetes et les travaux qu'on fait avec les clients. Au mois d'avril, j'ai des trucs un peu plus. J'ai le Brescamp à Rennes, qui est plutôt un salon développeur open source, mais j'essaie d'apporter une petite touche de Windows et de Microsoft là-dedans. Et d'Ops, du coup. Voilà. Et le Global Azure Bootcamp, alors soit on arrive à le monter à Nantes, soit on va aller se greffer dans une des villes de France pour discuter un peu de ce qu'on fait en ce moment. Voilà.
Et le 11 avril, on fait quelque chose ensemble, Fabien, je te rappelle.
Le 11 avril ?
Ouais.
Bon, ceci ne nous regarde pas.
Ah ouais, si, ouais. Il y a le French PowerShell User Group où Pascal vient de parler de PowerShell sur Linux.
Exactement.
Ah, c'est cool ça.
Intéressant.
Si je ne m'abuse.
Parce qu'on fait du Linux.
Je peux le rappeler, j'avais zappé.
On met du Bash dans Windows, mais aussi on met aussi du PowerShell dans Linux. Donc comme ça, la boucle est bouclée et c'est sympa. Et Florent, des actualités, des choses ?
Bah moi, j'ai pas été invité à Aix au Soleil, donc je vais rester en Belgique. Hein.
Oh là là.
Non, justement, je vais tourner une vidéo d'à peu près 15 minutes sur ACS et ACR. Donc, pour la communauté CMD, donc tous les mois, on essaye de sortir une vidéo sur un sujet bien précis. Et ce mois-ci, donc, c'est moi qui suis en charge de la vidéo. Et donc, ça va être sur ACS et ACR. Donc, en 15 minutes, comment déployer très rapidement son environnement sur Azure pour commencer les tests.
Ouais. Et du coup, mois d'avril, c'est moi sur un webinar aussi, pareil, pour la communauté CMD, mais sur Azure Automation. Excellent. DSC, comment mettre des runbooks, comment utiliser les webbooks, etc. etc.
Bah écoutez, il est un petit peu tard là, puisqu'on enregistre ça en soirée. Donc,
C'est vrai qu'à ton âge, c'est trop.
Oh. Il va y avoir des coupes. non, mais c'est l'heure de la bière là, je crois, donc pour tout le monde. Donc,
ouais.
Messieurs,
exactement.
Merci beaucoup. Merci Florent, merci Jeff, merci Fabien.
Merci à tous.
Merci Pascal pour l'organisation.
Voilà, on se retrouve, j'espère, très bientôt. Je sais qu'on en a, on a un épisode prévu dans 2 semaines, mais je ne promets plus jamais rien, puisque l'expérience prouve que plus je promets des dates, moins on fait. Donc voilà. Et donc j'espère avoir un autre épisode dans 2 semaines. En attendant, bon week-end à tous et merci beaucoup. Et à bientôt.
Allez, ciao.
Merci,
ciao.
Bonne soirée, bonne journée.